France Culture.
Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Cette description de la fin du monde dans le deuxième épître de Pierre combine une destruction cosmique de la terre et un appel à la foi dans un monde meilleur, celui que Dieu nous aurait promis. L'idée de la fin du monde, ou du moins de la fin de ce monde, est relativement fréquente dans la Bible sous des formes bien différentes. Il y a le fameux jugement dernier, celui qui nous encourage à nous comporter selon la volonté de Dieu pour accéder aux cieux, mais aussi des itérations plus complexes et plus débattues par les théologiens. On pense par exemple à l'idée de l'apocatastase, mentionnée dans l'Acte des Apôtres, qui signifie le retour de toutes choses à leur état d'origine, comme si le monde arrivait à la fin d'un cycle et que tout devait être purgé pour renaître. Ce monde qui va finir, c'est le titre de ce numéro de L'autre scène où les vivants et les dieux, de Claude Métra, qui revient sur les enjeux entourant la fin du monde dans la théologie et la religion chrétienne, en compagnie de l'écrivain Jacques Lacarrière et de l'historienne, philosophe et romancière Marie-Madeleine Davy. Une émission diffusée pour la première fois le 26 avril 1976 et réalisée par Claude Roland Manuel.
Comme chaque lundi soir, France Culture présente L'autre scène où les vivants et les dieux, une émission de Claude Métra et Philippe Nemo.
Ce monde qui va finir, par Claude Métra, avec la participation de Marie-Madeleine Davy et Jacques Lacarrière, et le concours de Pascal Mazetti et Philippe Moreau. Réalisation Claude Roland Manuel.
Thank you.
Au début de ce siècle, le romancier vagabond Jack London décrivit dans La peste écarlate la fin de la présente civilisation. Nous sommes en l'an 2016. Les progrès insensés de la science et de la technique assurent à l'homme longue vie et grande sécurité matérielle. Il n'est plus de maladie contre laquelle la médecine n'ait de recours. Dès qu'un virus inconnu se manifeste, les laboratoires du monde entier, travaillant en étroite collaboration, trouvent la réponse appropriée. Jusqu'au jour où, dans une université américaine, dans le calme ennui du cours professoral, on voit une jeune fille se dresser subitement, devenir toute rouge, puis s'écrouler sans vie parmi ses camarades. Dans la même journée, dans la même ville, plusieurs cas semblables apparaissent. Alarmés aussitôt, les savants isolent le microbe de cette nouvelle peste qu'on va appeler la peste écarlate. Et les chercheurs, d'un continent à l'autre, se mettent à la quête de ce microbe nouveau. Leur quête, bien entendu, doit être, comme d'habitude, victorieuse. Mais la science restera muette devant l'épidémie. En quelques jours, les villes américaines, à travers de multiples désordres qui marquent l'éclatement du corps social et l'irruption des instincts les plus sauvages de l'espèce, vont être peuplées de cadavres. Seuls quelques individus, isolés d'ailleurs l'un de l'autre, survivront dans l'âpreté des montagnes à cette calamité. Depuis Jack London, les récits de ce genre se sont multipliés. Livres et films aujourd'hui décrivent avec une efficacité dramatique souvent extrême la grande apocalypse du futur. Mais ce ne sont pas seulement les imaginatifs qui nous mènent à ces rivages destructeurs. Les réalistes aussi, les politiques à travers l'écologie ou la simple critique de la civilisation industrielle, nous décrivent l'inéluctable marche de l'espèce vers son propre anéantissement. Notre propos n'est pas ici de suivre les romanciers ou les politiques en leurs funèbres prophéties. Il serait plutôt de tracer quelques repères dans la résonance que de telles paroles ont chez nos semblables, c'est-à-dire en nous-mêmes. À quelle source se nourrissent? Sur quelle désespérance s'ébauchent ces visions du futur qui ouvrent sur le néant? C'est la question que nous nous poserons, car cette fin du monde, annoncée périodiquement à l'humanité, elle n'est véritablement menace qu'au moment où les hommes en viennent à la désirer et non plus seulement à la subir. Que ce désir de mort prenne la plupart du temps la parure de la religion, c'est ce que nous indiquent suffisamment les multiples mouvements apocalyptiques de l'histoire. Et il en est un particulièrement riche de ce point de vue, c'est celui dont témoignent ces hommes ivres de Dieu qui, pour devancer en quelque sorte le jugement du ciel, s'aventurèrent dans la solitude du désert, s'exposant à mille misères pour être présent à la lumière avant que la lumière se manifeste. Ceci se passe environ au IVe siècle de notre ère. Et ce paysage, qui est à la fois paysage du corps et paysage de l'esprit, nous le parcourrons avec Jacques Lacarrière et avec Marie-Madeleine Davy. La fin du monde, c'est le temps à jamais suspendu. Conception mal imaginable dans la société archaïque où le temps est celui de l'éternel retour. Retour périodique des saisons, retour des morts parmi les vivants, cycle indéfiniment refait d'une création qui connaît inéluctablement et le monde végétal en est la meilleure illustration, la naissance, la floraison, le dessèchement, le pourrissement, la résurrection. Au IVe siècle, deux hommes parmi beaucoup d'autres, Antoine et Pacôme, s'enfoncent dans la solitude du désert, comme aujourd'hui certains de nos contemporains s'en vont seuls dans la montagne ou sur la mer. Il y a Antoine et Pacôme, et beaucoup suivront leur exemple. Il y a là, Jacques Lacarrière, le signe d'une véritable inversion du temps.
Je dirais même un changement presque brutal de la relation avec le temps. Disons que le christianisme, déjà en tant que continuateur de l'esprit hébraïque, a introduit dans le déroulement du temps une notion linéaire. Ce temps dit cyclique, et là aussi il faudrait un peu réfléchir, comment ressent-on le cycle du temps dans les communautés rurales de l'Antiquité, comment le ressentait-on, ce temps cesse en somme de tourner en rond. Le monde cesse de grandir, de vieillir, de se renouveler et de recommencer avec quelques secousses qui étaient les chaos et les commencements, les naissances. Et puis, de ce temps cyclique, il semble qu'il se soit déroulé. Comme on dit d'ailleurs curieusement dans la technologie moderne, les fameux moteurs linéaires. Ce qui était rond devient étalé et l'énergie circule dans un sens orienté, selon un axe. Et le christianisme aurait introduit cet axe dans l'histoire. Le monde brusquement se met à avoir un commencement précis, une fin précise. Alors c'est exact, cette relation avec le temps est primordiale, mais il me paraissait intéressant de se demander comment ceux qui en furent les témoins ont pu le percevoir et ont-ils eu conscience d'être les témoins de ce changement. Voilà la question qui me paraît posée.
Marie-Madeleine David.
Moi, ce qui me paraît essentiel, c'est cette entrée de Dieu dans l'histoire. Avec le judéo-christianisme, tout change. Et on ne peut pas parler en Égypte ou en Babylonie de source de cette pensée judéo-chrétienne. Tout d'un coup, Dieu crée. Il met 6 jours à créer. Puis, il se repose par le Shabbat. Et après, il semble que tout soit fini. Or, l'homme est introduit dans l'histoire par cette création même. Et puisque l'homme est condamné à mort, le cosmos qui est créé pendant ces 6 jours est aussi condamné à mort. C'est-à-dire que l'homme fait partie du cosmos, non seulement il fait partie du cosmos, mais il le dirige, c'est-à-dire que le cosmos est soumis à l'homme, et l'un et l'autre sont entraînés dans la mort, c'est une condamnation à mort mutuelle. Je crois que ce rôle de l'histoire dans le judéo-christianisme est tout à fait à mettre à part, et très difficile à comprendre, car c'est une histoire continue, une histoire qui s'oppose au véritable temps, c'est-à-dire au temps existentiel, je dirais même au temps de la profondeur. Le temps est la notion fondamentale. D'une part, le temps cosmique, d'autre part, le temps historique, s'opposant l'un et l'autre au temps existentiel. Et dans ces 3 notions de temps, nous trouvons la réalité même de la fin du monde. Car si l'homme change, s'il se meut, s'il subit des métamorphoses, il va arriver à créer dans le cosmos, lui-même étant un microcosme, aussi une mutation, un ciel nouveau, une terre nouvelle. Et la seule façon d'échapper à la fin du monde, c'est de devenir neuf.
À l'intérieur des mythologies méditerranéennes antérieures au christianisme, nous voyons que ce temps circulaire était perçu par l'homme comme une possibilité permanente de métamorphose. Si la mort intervenait, c'était pour préparer mieux de nouvelles naissances. Dans un temps linéaire, cette espérance change de forme. C'est-à-dire que au lieu de voir l'espoir de l'espèce et l'espoir même de la création dans son rajeunissement, on le voit au contraire dans l'avènement d'un autre monde.
Dans le vocabulaire de la diaspora grecque, c'est-à-dire des communautés grecques qui ont été les premiers témoins de la rédaction évangélique, il y a le mot parousie, parousia, qui signifie présence, c'est-à-dire avènement donc, mais par l'apparition, par la présence brusquement sensible et visible dans notre monde de la figure divine. Le Christ venu une fois en tant qu'homme réapparaît par ce qu'on a appelé le jugement dernier, la parousie, et ça me paraît intéressant que ce jugement dernier se définisse par la présence, l'intervention, on pourrait dire, mais la présence visible du Christ à la fin des temps. Et c'est cette figure qui est en même temps vision, qui semble avoir préoccupé, enfin qui même a hanté les tout premiers chrétiens, puisque je crois, mais moi je ne suis pas du tout un exégète théologique de ces textes, mais il me semble que déjà dans saint Paul, on s'attend à cette vision, à cette parousie du Christ, sous une forme éminemment simple, c'est-à-dire sensible aux organes de l'homme, sensible à son œil, sensible à ses oreilles, l'importance des sons dans les descriptions d'Apocalypse, des trompettes, du déroulement du parchemin du ciel, et des bruits en général, des cris, sans qu'on puisse parler de naïveté, car il s'agissait là de mondes qui se côtoient, le monde de l'homme dans l'histoire et le monde de l'homme hors de l'histoire, on s'attendait certainement à ce que ce mot « parousie » incarne des choses assez précises. Et c'est cette attente, je dirais, d'une précision d'un grand spectacle divin qui marque les premières formes de cette attente de la fin du monde.
Ce grand spectacle que vous évoquez, Jacques Lacarrière, cet avènement du royaume, il est pour ceux qui le vivent promesse d'éternité. Seulement, ce qui se passe, c'est que cette paix à venir ne peut s'ébaucher qu'à partir de la destruction radicale de ce qui existe. Elle requiert donc que sur cette terre, ici et maintenant, les hommes décident de se ranger du côté des bons ou du côté des méchants. Elle implique surtout la croyance en une force du mal incarné tantôt par Lucifer, tantôt par l'Antéchrist, un mal sur lequel Dieu n'a pas la victoire facile. Et en ce sens, grossir l'armée de Dieu, c'est l'aider à écraser l'esprit du mal. C'est d'ailleurs ce que nous indique l'actance.
Cet insensé, l'Antéchrist, prendra la tête d'une armée et assiégera la montagne où les justes auront trouvé refuge. Et se voyant assiégés, ils feront appel à Dieu de toute leur voix, et Dieu les entendra et leur dépêchera un libérateur. Alors, les cieux s'ouvriront. La tempête fera rage, et le Christ descendra muni d'une grande puissance, et une lueur de feu le précédera, ainsi qu'une cohorte d'anges innombrables. Cette foule de mécréants sera anéantie et le sang coulera à flots. La paix revenue et les maux supprimés, le roi juste et victorieux soumettra les vivants et les morts à un jugement terrible, et il asservira tous les peuples païens placés sous le joug des justes survivants. Au juste trépassé, il accordera la vie éternelle et il régnera lui-même avec eux sur cette terre et fondera la cité sainte. Et ce royaume des justes durera 1000 ans. Les étoiles brilleront d'un plus vif éclat. Le soleil se fera plus splendide et la lune ne connaîtra pas de déclin. Alors la pluie descendra sur la terre matin et soir comme une bénédiction. Et la terre produira tous ses fruits sans l'aide du labeur humain. Le miel dégouttera en abondance des rochers. Des sources de lait et de vin jailliront. Les bêtes des forêts cesseront d'être sauvages pour devenir paisibles. les animaux ne se gorgeront plus de sang ni de chair, car Dieu leur fournira en abondance une nourriture innocente.
Je crois que ces prophéties de Lactance prolongent l'évocation apocalyptique du royaume à venir, celui que précisément décrit Jean quand il raconte la résurrection des morts et le jugement dernier et la naissance de la nouvelle Jérusalem.
Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre étaient passés et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ornée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une grande voix qui venait du ciel et qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il y habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même leur Dieu, et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car ce qui était auparavant sera passé. Et celui qui était sur le trône dit, « Voici, je vais faire toute chose nouvelle. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu et sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal.
Je crois, Jacques Lacarrière, que cette attente de la nouvelle Jérusalem, elle est vivante dans le cœur de la chrétienté naissante, qu'il associe bien entendu au retour du Christ. Et ce phénomène de l'attente, il joue un grand rôle dans l'histoire. Nous le connaissons nous-mêmes fragmentairement quand nous voyons notre époque aux prises avec des événements violents, au futur imprévisible. Que va-t-il se passer? Et dans les contradictions de l'Empire romain, il se présente au sein du monde chrétien comme une sorte de retrait de l'histoire réelle. L'attente, Marie-Madeleine Davy, l'attente est peuplée, habitée.
Il est évident que durant les deux premiers siècles, on a attendu le retour du Christ. On l'attendait presque pour le lendemain. Il y a des textes très curieux qui montrent que Paul était obligé d'encourager les hommes à travailler, il ne voulait plus travailler. Il restait oisif, il attendait la fin du temps. De la même manière, on ne voulait plus procréer, pourquoi faire des enfants, puisque demain ils allaient mourir. Et cette population chrétienne était considérablement déçue. Elle a même eu l'impression, il y a des textes là très précis, d'être trompée. On aurait trompé en disant les temps vont venir demain, c'est quasi immédiat. Et par conséquent, à mesure que ça ne vient pas, que cette fin du monde n'arrive pas, on ne sait plus que penser. Il y a un désarroi, il y a une angoisse, il y a une souffrance. C'est à la fois une attente, une espérance et une désespérance. Et même à notre époque, on voit encore cela, un écho, un reflet. On attend une certaine fin et rien n'arrive.
Ainsi, le temps passe, la promesse ne s'accomplit pas. Et la collectivité vit ce manque aussi profondément qu'un individu isolé lorsqu'il voit se dérober à son regard ce en quoi il a mis son espérance, un amour, une tâche, un départ. Et c'est alors que l'attente se change en angoisse. Entre l'espérance et le désespoir, l'être parcourt tous les itinéraires du désenchantement. Et le pire, c'est qu'il les parcourt sans défense et privé de tout moyen de connaissance. Et c'est cet état de dépossession d'espoir vague qu'une part importante de la littérature d'aujourd'hui nous a rendu familiers. Pensons ici à Kafka et utilisons ce que nous en dit le philosophe américain Eric Fromm. Eric Fromm nous dit « Kafka a admirablement décrit ce genre d'espoir passif et résigné dans un passage du Procès. Un homme arrive à la porte conduisant au ciel, c'est-à-dire à la loi, et supplie le gardien de le laisser entrer. Le gardien répond qu'il ne peut pas, pour le moment, l'y autoriser. Bien que la porte menant à la loi reste ouverte, l'homme décide qu'il ferait mieux d'attendre jusqu'à ce qu'il ait la permission d'entrer. Alors il s'installe et attend durant des jours et même des années. Il demande régulièrement à être introduit, mais on lui répond toujours qu'il ne peut pas encore y être autorisé. Durant ces longues années, l'homme observe presque constamment le gardien et apprend à reconnaître jusqu'aux puces de son col de fourrure. À la fin, il est vieux et près de la mort. Pour la première fois, il interroge : comment se fait-il que durant toutes ces années, personne d'autre que moi n'ait cherché à entrer ? Et le gardien répond : personne d'autre que vous ne pouvait gagner l'accès de cette porte, puisque cette porte vous était destinée. Je vais maintenant la fermer. Erich Fromm commente à notre usage, à un usage proprement contemporain, l'épilogue désastreux du héros de Kafka. Le vieil homme était trop vieux pour comprendre, mais il n'aurait peut-être pas davantage compris s'il avait été plus jeune. Ici, nous dit Erich Fromm, les bureaucrates ont le dernier mot. S'ils disent non, l'homme ne peut pas entrer. Si l'homme avait eu plus que cet espoir passif et latent, il serait entré et son courage à enfreindre la volonté des bureaucrates aurait été l'acte libérateur qui l'aurait conduit au palais resplendissant. Beaucoup de gens ressemblent au vieil homme de Kafka. Ils espèrent, mais il ne leur est pas donné d'agir suivant le mouvement de leur cœur, et aussi longtemps que les bureaucrates ne donnent pas le feu vert, ils ne cessent d'attendre. Et ce que nous indiquerait le texte de Kafka, c'est que personne ne possède les clés du royaume si ce n'est nous-mêmes. Mais cette évidence peut-être échappe-t-elle aux hommes quand ils vivent dans un monde dont les structures s'effondrent, dont les nécessités internes et les cohérences psychologiques se disloquent. Et peut-être l'attente messianique, celle que nous poursuivons maintenant, Jacques Lacarrière et Marie-Madeleine Davy, peut-être cette attente messianique est-elle liée directement à cette sorte d'éclatement d'une société qui, comme la nôtre, est assiégée par d'autres images du monde, qui est comme investie par d'autres visions du futur. Nous sommes ici, rappelons-le, au moment où l'Empire romain est menacé dans sa force vive, et le Messie s'inscrit dans les ruines à venir de la communauté humaine.
Et les textes de l'époque, quand on les relit aujourd'hui, nous décrivent une situation que peut-être dans notre propre mémoire nous pouvons avoir connue. En traduisant un texte de saint Hippolyte, c'est-à-dire un texte du IIIe siècle après Jésus-Christ, j'ai cru revoir des scènes de l'Exode de 1940. Il y a là une sorte de mouvement, d'abord. L'attente de la fin du monde ne peut pas se faire là où l'on vit. Au début, on l'attendait sur les terrasses des maisons de Judée. Par la suite, on va la chercher et l'attendre dans le désert. Le désert semble un lieu où le grand spectacle divin va pouvoir en somme s'éployer comme sur un immense écran naturel. Et c'est là que des foules entières partent, femmes, enfants, abandonnant tout métier, abandonnant leur maison, et sans rien, c'est-à-dire même pas un baluchon. On pense que ça va se produire dans les 48 heures, ou peut-être dans les jours qui viennent. Et les textes décrivent cet immense exode, cette perturbation totale, bien sûr, de la communauté, et des mesures que les autorités romaines sont obligées de prendre, puisque pour elles, il ne s'agit à la limite, elles ne comprennent pas du tout cette mentalité, que peut-être d'une sorte de subversion destinée à miner les forces de l'Empire romain. Alors ces hommes, ces femmes assis dans le désert, se nourrissant comme peut-être des images très récentes, celles qui nous ont montré la marche verte à l'occasion des récents conflits du Sahara espagnol, ces milliers de gens installés dans le désert attendant un ordre de marche, je me demande si ces images ne sont pas non seulement elles-mêmes d'actualité, mais ne redonnent pas aux exodes de cette époque une sorte de dimension et qui était la véritable angoisse et en même temps le véritable espoir de voir le monde finir. Ce sont ces images disloquées, ce sont ces foules errantes, partagées entre l'attente imminente et puis peut-être tout de même la secrète angoisse que ce monde ne finisse pas, car elles ont tout abandonné, qui marquent avec beaucoup de violence et aussi de vérité ces textes des pères de l'Église qui, à des siècles de distance, pourraient nous paraître si abstraits.
Je pense qu'il y a aussi un autre problème, c'est celui de la foi. La foi, au fond, tremble du fait que la fin du monde n'arrive pas. Voilà des hommes qui ont cru que le retour du Christ était quelque chose d'imminent, il ne revient pas. Est-ce que le Christ ne se serait pas trompé sur d'autres points? Est-ce qu'il n'y aurait pas des erreurs que l'on aurait acceptées par naïveté? Et c'est pourquoi on va substituer d'une certaine manière, peu à peu, à cette fin du monde qui n'arrive pas, une sorte de béatitude à venir. J'ai souvent eu l'impression, en lisant des textes anciens, que la béatitude à venir, eh bien, remplaçait d'une certaine manière, la fin du monde.
Ce qu'il y a d'important aussi, c'est que à certains moments, et c'est là que les siècles premiers du christianisme ressemblent tant à notre époque, on a le sentiment que l'imagination humaine se met à sécréter les images du spectacle qu'elle redoute et souhaite à la fois. Je crois par exemple, Jacques Lacarrière, que jamais on a vu autant d'images de destruction à travers la science-fiction, à travers le cinéma, à travers le roman, et à travers un ensemble de figurations qui donnent toute l'image de l'apocalypse, et que ces représentations sont finalement assez proches de celles qui peuplaient l'imagination des gens qui s'en allaient dans le désert au 3e ou 4e siècle.
Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ce que vient de dire Marie-Madeleine Davy. C'était à propos de ce problème très simple qui est le refus de procréer. On se dit qu'après tout, et ces phénomènes ne sont pas d'ordre logique, la meilleure façon de faire finir le monde, ça serait une sorte de consensus universel décidant qu'on ne fait plus d'enfants. Le plan de la pureté va de pair avec, le problème démographique. Ces groupes qui partent dans le désert ou qui même au seuil ou au cœur des villes attendent la fin du monde, ont créé à cette époque une perturbation dont on se demande comment l'Empire romain a pu faire pour la supporter et arriver à la surmonter encore pendant 2 siècles, même une croyance intense au jugement dernier, même des perturbations de nature historique et sociale monumentale, comme on en a peu connu, n'arrivent pas, je dirais, à ébranler totalement les assises d'un monde qui mettait beaucoup de mal à mourir.
Jacques Lacarrière a tout à fait raison d'insister sur l'importance de la virginité. Je me réfère en disant cela à un texte de Grégoire de Nice, sur le De Virginitate. Il montre que être vierge, devenir chaste, c'est se retirer du monde. Et que c'est par conséquent échapper au poids d'un monde qui va finir. On n'a plus l'angoisse de ce poids d'une fin du monde qui ne vous concerne pas.
En fait, Marie-Madeleine Davy, cette obsession de la virginité est complexe et elle peut se déchiffrer, je crois, à travers plusieurs miroirs. D'abord, elle reflète le besoin impératif de ne plus prolonger une création fatiguée et de hâter par conséquent la ruine de cette terre. Mais elle peut marquer aussi, et c'est un changement capital dans l'histoire de la civilisation, la primauté des valeurs viriles. À la limite, en effet, on serait fondé à penser que la femme est incapable de croire à la fin du monde parce qu'en elle, précisément, réside la capacité de renouveler le monde par la maternité. Et je ne serais pas loin de croire que la fin du monde, c'est une idée d'homme. Elle s'inscrit dans le christianisme quand, sous l'influence de Paul, elle substitue une religion du sacrifice à cette communion d'amour qui était indiquée par le Christ. C'est du moins ce que nous suggère le philosophe Walter Schubart. Dans son ouvrage « Eros et religion », il nous dit « Quand l'ascète nihiliste, dans sa profonde amertume typiquement masculine, maudit le monde et voudrait le voir s'anéantir, Il proscrit tout spécialement le sexe, source intarissable de renouvellement de l'existence, puis aussi le corps, siège de la sexualité, symbole et porteur de la caducité. Enfin, il proscrit la femme, infatigable pourvoyeuse de vie, incarnation séductrice de la vie, garante de l'éternité de la vie. Aussi le dégoût du monde et la cèse qui en découle s'accompagnent-ils régulièrement de haine du corps et de mépris de la femme. L'âme n'est plus le sens du corps, mais le corps est le tombeau de l'âme. La femme n'est plus la Madone, la Rédemptrice ou la Magna Mater, mais elle est puissance diabolique. L'homme sent bien que les exigences ascétiques blessent profondément la nature féminine, ordonnée à la fécondité et au maintien de la vie. Type de rédemption nihiliste, il est chez la femme son alliance avec la nature, son pacte avec les puissances du monde. Il se considérera lui-même comme le principe transcendant, nous voyant en la femme que le principe immanent. Son aspiration au salut et au dépassement du monde finit par dégénérer en haine ouverte du monde qui s'exprimera éventuellement en rage de destruction. C'est là, bien entendu, Marie-Madeleine Davy, une interprétation du christianisme que le philosophe américain complète par une autre perspective, celle d'un christianisme où la Vierge Marie s'inscrit dans la suite de la grande déesse mère du paganisme, car, comme nous l'indiquerait Dostoïevski, la mère de Dieu est l'humide terre maternelle. Mais la virginité peut être vécue aussi comme le retour à un temps au-delà du temps, à une éternité parfaitement immobile, où il n'y aurait jamais rien à redouter, puisqu'il ne se passerait jamais rien. C'est ce que nous suggère quelquefois John Cooper Powys. Mais ce retour vers un espace sans métamorphose, vers un royaume où la lumière brille toujours avec la même intensité, ce retour, il connaît maint visage. Et puisque ce retour est d'abord une destruction du monde présent, il faut bien dire, Jacques Lacarrière, que cette destruction peut prendre de multiples formes.
Sur ce scénario, disons, par lequel le monde doit s'achever, les textes ne peuvent pas être d'une précision absolue, puisqu'il s'agit plutôt d'un état d'imprégnation, d'une menace, ou alors simplement d'un espoir, mais qui ne décrit pas le processus. Dieu, s'il met un terme à sa propre création, le mettra selon les formes qu'il jugera les meilleures, c'est-à-dire susceptibles d'arrêter en quelque sorte le cours du monde ou de l'histoire par des moyens qui sont à sa disposition. Ce qu'on a imaginé, que ce soit par l'eau, que ce soit par le feu, que ce soit par une sorte de dessiccation immédiate des choses, que ce soit par une intrusion brutale, claironnante, solaire, par laquelle Dieu irradierait sa propre puissance, toutes ces formes, enfin, on peut les trouver à travers les commentaires qu'un tel thème a fatalement engendré.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose, n'est-ce pas ? L'homme vieillit, l'homme est usé, donc il meurt. Mais le monde est usé d'une autre manière. Je sais que Tertullien dira qu'on entend presque le déchirement du monde usé, comme on déchirerait un vieux vêtement très très usé, qui tombe en loc. Il y a cela. Mais je pense quand même qu'il y a toujours en permanence, derrière cet aspect qu'il faut retenir, qui est important, il y a quand même autre chose. C'est la possibilité toujours, par une intériorisation, de créer en soi une nouvelle terre, un nouveau ciel, et par conséquent n'être plus régi par les lois qui déterminent l'étendue même du cosmos. L'homme intérieur rajeunit dans la mesure même où l'homme extérieur vieillit. Et puisque l'homme est responsable du cosmos, il est évident que ce rajeunissement intérieur, qui est comme une mutation, comme une métamorphose en lui, il y fait participer le cosmos.
Thank you.
on voudrait savoir tout de même comment et quand la chose va se produire. Et cette mutation dans les signes, je dirais qu'elle rejoint presque cette question du temps à des signes brutaux, à une révélation immédiate, succèdent des signes lents qui se manifestent non plus par de grands séismes, par des grandes épidémies, par des raz-de-marée ou par des génocides, mais des signes qui vont être beaucoup plus lents, beaucoup plus subtils, je dirais qu'ils seraient presque invisibles ou à peine perceptibles. Et c'est là alors que nous sommes dans notre époque, et pas seulement au IVe siècle après Jésus-Christ. Car j'ai été frappé de m'apercevoir à quel point certains des textes de cette époque rejoignaient des préoccupations d'aujourd'hui. Un petit passage de Cyprien de Carthage paraît tout à fait remarquable sur ce plan.
Qui ne voit que le monde va sur son déclin, qu'il n'a plus les mêmes forces ni la même vigueur qu'autrefois. Il n'est pas besoin de le prouver par l'autorité de la Sainte Écriture. Le monde lui-même le dit et témoigne qu'il approche de sa fin par la décadence de toute chose. Il tombe moins de pluie en hiver pour nourrir les semences. Le soleil n'est plus si chaud en été pour nourrir les fruits. Le printemps n'est plus si agréable, ni l'automne si fécond. Les carrières, comme si elles étaient lasses, fournissent moins de pierres, et les mines d'or et d'argent sont déjà épuisées. Les terres demeurent incultes, les mers sans pilotes, les armées sans soldats. Il y a moins d'innocence aux barreaux, moins de justice parmi les juges, moins d'union entre les amis, moins d'industrie dans les arts, moins de discipline dans les mœurs. Nous voyons des enfants qui sont déjà tout blancs. Leurs cheveux périssent avant qu'ils soient venus, et ils commencent par la vieillesse au lieu de finir par elle. Ainsi, toute chose, dès à présent, se précipite vers la mort, se ressent de l'épuisement général de ce monde.
Alors là, on est à la fois dans une sorte d'argument rhétorique qui couvre 2000 ans, à savoir tout simplement que c'était mieux avant qu'aujourd'hui, parce que c'est ça que ça veut dire aussi, mais en même temps, dans un sentiment à l'égard de l'épuisement du monde, qui rejoint des préoccupations d'aujourd'hui, puisqu'un autre auteur, de la même époque, dit que la Terre ne va plus pouvoir nourrir la multitude des naissances. Déjà, on a conscience que le monde va s'épuiser parce qu'il y a trop d'hommes.
Maintenant que le monde a fleuri partout et a porté ses fruits, maintenant que la Terre a été ensemencée d'un si grand nombre d'hommes qu'elle ne peut plus contenir la multitude des naissances, maintenant que s'est accomplie la prédiction au sujet de la venue du Seigneur, que les hommes conquis par son enseignement forgeront des oyaux avec leurs glaives et des socs avec leurs lances, qu'aucune nation ne prendra plus l'épée contre une autre et qu'il n'y aura plus de guerre, alors la virginité, au contraire de ceux qui périssent par le corps, fera fleurir à partir du corps l'incorruption.
Est-ce que les craintes que nous nourrissons aujourd'hui dans le même domaine et où on pourrait trouver presque la même formulation dans des déclarations d'écologues, je pense à un livre de René Dumont qui s'appelle Terre vivante, est-ce que ces craintes deviennent après coup justifiées? Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui encore d'une crainte de nature générale, d'une sorte de sentiment que la Terre ne va pas nourrir les naissances, que les carrières s'épuisent, que les mines n'ont plus de fer, ou bien est-ce qu'il s'agit de la réalité objective de l'épuisement d'un monde? Et cette interrogation, elle n'était pas concevable, ou en tout cas, elle n'était pas présente en 1960, car brusquement, en 15 ans, voici que on parle et on emploie des termes qui n'existaient pas dans la littérature et dans le journalisme de 1960, si ce n'est chez quelques très rares précurseurs, ou alors dans d'autres pays comme les États-Unis, on ne parlait pas de pollution, le mot écologie n'était pratiquement pas employé à part par les spécialistes, et tous les problèmes qu'on est en train de débattre aujourd'hui, ces problèmes ne se posaient pas encore. Quelques mois plus tard, paraissaient en France ce qu'on appelle les premiers films catastrophiques. Ces grands films qui, sous des formes diverses, la tour infernale, le tremblement de terre, le raz-de-marée, et tout récemment maintenant, avec les dents de la mer, toujours cette idée du monstre qui est une sorte de Léviathan, car ce thème revient à travers ce film, qu'il y a, dans la catastrophe, à la fois la terreur de la voir venir, et en même temps peut-être, des signes auxquels nous devrions être sensibles, et qui, comme un fait exprès, se produisent à peine 25 ans avant l'apparition de l'an 2000. Donc nous sommes peut-être dans une époque où nous sommes plus habilités à traiter de ces questions qu'il y a un demi-siècle.
Il me semble que cette obsession de la fin du monde, peut-être par ceux qui en sont les témoins, vécue de deux manières différentes, identiques d'ailleurs dans leur formulation, différentes par ce qu'elles signifient. En effet, face à cette crainte d'un effondrement total de la création, les hommes peuvent se manifester par une sorte de repli. Repli historique vers et nostalgique vers des périodes heureuses où le temps était autre. Refus vers des formes d'existence qui préservent tant bien que mal un présent tout à fait éphémère et menacé. Ou bien une attitude positive qui consiste à vivre cette obsession en essayant précisément de donner à l'instant, au temps plein, au présent, sa signification totale, en occultant en quelque sorte le futur. Et il y a une attitude qui me paraît porter à la fois témoignage de ces deux attitudes, à la fois positive et négative, c'est le refus du travail. Dans les personnages que vous avez étudiés à travers les déserts d'Égypte ou de Syrie au premier temps de la chrétienté, vous avez, Jacques Lacarrière, montré que ces hommes refusaient le contexte social, ils refusaient par conséquent l'activité et ils s'en allaient pour vivre parmi les plantes et parmi les bêtes hors de tout labeur.
Ce refus du travail, on le retrouve à plusieurs époques, mais là je crois qu'il est tout de même lié à des contextes historiques. Il prend place non pas en tant que refus du travail, mais en tant que fuite hors du monde, c'est-à-dire ce thème de la funga mondi, de la fuite hors du monde, qui a d'ailleurs été sans cesse prôné par une partie militante de l'Église. On fuit le monde parce qu'il dure trop ou parce qu'il va mourir. Le problème n'a pas d'importance. On fuit le monde parce que c'est hors de ce monde, comme c'est hors du corps, que se trouve l'accès ou la porte possible vers le royaume des cieux. Et on le fuit aussi, à l'origine, dans l'époque que j'ai étudiée, parce que ce monde reste toujours un monde païen, un monde romain, qui se traduit dans la vie quotidienne par le martyre des chrétiens, par une oppression et une contrainte intolérables, et par conséquent, parce que ce monde destiné à disparaître, mais dont la force d'agonie reste considérable, qui a encore un pouvoir de mort extrêmement dangereux, ce monde, on ne saurait collaborer avec lui. Dans la fuite hors du monde, il y a à la fois ces motivations radicales, essentielles, qui sont d'abord d'origine mystique presque, et qui sont donc cette certitude que le monde se termine et qu'il faut être prêt pour le monde nouveau qui va naître. Mais aussi, il y a donc une attitude asociale totale qui est le refus d'être impliqué dans tous les domaines du monde, le travail étant le plus sensible, mais bien entendu aussi la famille, les services civiques, militaires, ce phénomène, par l'ampleur qu'il a prise, puisque ces fuites hors du monde ont représenté concerné des dizaines de milliers d'ermites puis de moines sur deux siècles, créé même de véritables communautés hors du monde, tout en étant près de lui, à ses limites, des sortes d'images contraires et en même temps elles-mêmes nourries d'une substance qu'elle crée, une substance propre, la cité céleste du monastère, qui s'installe aux portes du monde Oni et qui en est à la fois l'image radieuse et en même temps la négation. Et c'est ce phénomène, par le refus du travail, qui a certainement perturbé de la façon la plus considérable les forces encore présentes, mais déjà déclinantes, de l'Empire romain. Et sur le simple plan de l'histoire, à part quelques autres phénomènes qui se sont situés au Moyen-Âge, je ne crois pas qu'on ait assisté à une telle conspiration, si je puis dire, de milliers d'hommes décidés à rompre toute relation sociale avec un monde à l'agonie.
On s'éloigne de quelque chose qui est en train de mourir pour retrouver l'épaisseur de la vraie vie. Et on pense ici à William Blake. William Blake qui nous dit « Les choses de l'esprit sont les seules réalités. Personne ne sait où est la demeure de ce qui est corporel. Elle est dans l'erreur et son existence est une imposture. J'affirme pour ma part que je ne perçois pas la création extérieure et que pour moi, elle représente l'obstacle et non l'action. Comme la poussière sur mes pieds, elle ne fait pas partie de moi. Quoi, objectera-t-on, quand le soleil se lève, ne voyez-vous pas un disque de feu semblable à une guinée ? Ah non, non, je vois une compagnie innombrable de l'armée céleste criant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant ». Je n'interroge pas plus mon œil charnel ou végétatif que je n'interrogerais une fenêtre au sujet d'un paysage. Je vois à travers elle, pas avec elle. Mais l'accès à cette autre réalité que nous décrit ici William Blake, il passe par une rupture avec les formes les plus concrètes de la vie réelle, et en particulier une rupture avec le travail. Cette rupture étant le prélude à l'affranchissement de toutes les autres servitudes. Seulement cette fuite du travail n'a pas de sens, sinon celui de conduire à une autre tâche plus urgente. Une tâche qui, Marie-Madeleine Davy, regarde, je crois, du côté de la contemplation et du côté de la cité divine.
Le labeur des labeurs, c'est la prière. Et plus encore, la sainte quotidienneté. La fleur, l'héliotrope, s'oriente vers son soleil. Et si quelqu'un était attentif, il pourrait entendre le bruissement de cette fleur se tournant vers son soleil. Et Proclus d'ajouter... Si une âme était attentive, elle pourrait entendre le bruissement du repos de l'âme qui se tourne vers cette vacance. Au fond, il y a ce sens de vacance.
Est-ce que ça n'est pas aussi le fruit d'une lecture presque mot à mot de l'Évangile ? Parce que le Christ répète à maintes reprises qu'il ne faut pas se soucier de la manière dont on se nourrira ou dont on se vêtira. Et que tout ça nous sera donné par surcroît, pourvu que l'on participe à la création par la prière ou par la contemplation. Parole évangélique qui sera d'ailleurs très malmenée au moment où le christianisme sera mis en cause par un certain nombre de philosophies d'un autre ordre. Par exemple, dans les livres du curé Mélier, on trouve des développements extraordinaires sur cette attente de la nourriture et du vêtement quotidien, par un Dieu qui, en réalité, abandonne les hommes à leur propre sort. Et on pourrait se demander si cette attitude des gens qui s'en vont vers le désert n'est pas une manière de dire à Dieu « Tu nous as dit que tu nous nourrirais, que la terre pour nous porterait des fruits, alors on s'en va dans ce désert et nous ne travaillons pas puisque nous n'avons rien à faire d'autre qu'à te contempler. »
Les textes mêmes traduisent cette contradiction puisque les uns parlent des prouesses des incroyables privations et en même temps des labeurs physiques que les ascètes doivent entreprendre pour se nourrir, certains faisant 40 kilomètres pour trouver une goutte d'eau. Et d'un autre côté, regorge d'exemples de miracles, de mannes célestes, par lesquels Dieu nourrit ceux qui ont cru en sa parole. Il existe des textes même très, très intéressants, sur des ascètes qui partent dans le désert pour prier au soleil, immobiles, et quand ils reviennent, qui trouvent un pain très blanc sur leur table. Et puis d'autres qui, au contraire, se trouvent en face de cette nécessité, et les textes insistent de la même façon sur la grandeur des deux attitudes, ou la grandeur des deux faits.
À chacun selon sa faim. Cela veut dire que le miracle qui se produit ne va pas répondre forcément à l'attente de tel ou tel individu, mais à ce qui est bon pour lui.
Le refus du travail tel qu'il se manifeste chez les ermites du désert, chez les anachorètes, tel qu'il se manifeste aussi dans certains visages de la société contemporaine, il exprime avant tout le désir de ne plus collaborer à l'édification et à la métamorphose du monde.
ces communautés hippies ou non-hippies qui se retirent aussi du monde d'une certaine façon, mais qui en fait y restent très très liées par d'autres attaches, ne peuvent pas servir aujourd'hui de parallèle aux expériences d'autrefois dans les déserts d'Égypte. Ce qui me frappe, c'est que justement ce refus de collaborer au monde, ce retirement hors du monde, jette les gens dans le désert, c'est-à-dire dans un monde hors de l'histoire, je dirais presque dans un monde hors de l'espace. Et se retirer du monde et ne plus collaborer à son histoire, a tout de même eu une conséquence indirecte et peut-être peu prévue à l'origine, et qui a été de créer aussi ces monastères, ces communautés qui sont des images anticipées peut-être de la cité céleste.
Il faut, je crois, insister beaucoup là-dessus, sur l'indépendance, la liberté que conquiert sans cesse l'homme qui se renouvelle et crée cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. Cet état paradisiaque qui n'est pas à venir, qui n'est pas pour demain, mais qui est aujourd'hui. Je n'ai plus peur de toi, ô astre, ô soleil, ô lune. Je n'ai plus peur de vous. Pourquoi ? Parce que je ne dépends plus de vous. Je suis né de nouveau. Et étant né de nouveau, j'ai mes astres qui appartiennent à mon propre ciel. Et ce sont eux qui me dirigent. Par conséquent, je ne suis plus mu par vous. Je crois qu'il faut se rendre compte que pour beaucoup de moines, la béatitude n'est pas quelque chose qui va survenir après la mort. Ce n'est pas un état qui va s'échanger contre un autre. Non, la béatitude, elle se vit dès maintenant. La fin du monde, pour certains hommes, elle est vécue hic et nunc, c'est-à-dire dans l'aujourd'hui, dans l'instant, et elle n'est pas remise à demain.
Refuser de participer à la vie du monde, c'est abandonner l'espace de la réalité pour s'installer dans un autre espace. Et cet autre espace réclame un autre corps. C'est pourquoi la révolution de l'esprit est d'abord une révolution des sens. Il y a comme un éclatement, une refonte de tout le champ sensuel de l'être. Et cet éclatement est le fruit d'une ascèse, semblable à celle qui nous est racontée à travers l'extrême austérité de Macaire.
Ayant aussi appris qu'un solitaire ne mangeait qu'une livre de pain par jour, il rompit les morceaux de pain qu'il avait, et les mit dans une bouteille avec résolution de n'en manger qu'autant qu'il en pourrait prendre avec les doigts, ce qui est d'une grande austérité. Car, nous disait-il de fort bonne grâce, j'en prenais bien plusieurs morceaux, mais l'entrée de la bouteille était si étroite que je ne pouvais les en tirer. Il pratiqua durant 3 ans cette si étroite abstinence, ne mangeant que 4 ou 5 onces de pain par jour, environ 100 grammes, buvant de l'eau à proportion, et ne consommant durant toute l'année qu'une petite cruche d'huile. Le carême étant venu, il prit des rameaux de palmier qu'il fit tremper et se tint debout dans un coin de sa cellule durant tout le carême et jusqu'au jour de Pâques, sans se mettre à genoux, sans s'asseoir, sans s'appuyer sur quoi que ce soit, sans manger un seul morceau de pain, sans boire une seule goutte d'eau, en se contentant le dimanche de prendre quelques feuilles de choux crus pour les manger devant les moines, et montrer qu'il prenait de la nourriture.
Cette ascèse est la volonté de réduire le corps à un rien, de le rendre en quelque sorte transparent pour qu'à travers ce miroir, la lumière puisse se manifester.
Saint Dorothée choisissait la plus grande chaleur de midi pour ramasser des pierres dans le désert, avec lesquelles il bâtissait des cellules pour ceux qui n'en pouvaient bâtir. Et il en faisait ainsi une tous les ans. Et comme je lui demandais, À quoi pensez-vous, mon père, dans une si grande vieillesse, de tuer ainsi votre corps par ces chaleurs insupportables ? Il me répondit, « Je veux le tuer, puisqu'il me tue. » Il ne mangeait par jour que 6 onces de pain, 100 grammes, avec une poignée d'herbe, et ne buvait qu'un peu d'eau. Je prends Dieu à témoin que je ne lui ai jamais vu étendre les pieds, ni s'être mis dans un lit pour dormir. Il passait toutes ses nuits à faire des cordes avec des écorces de palmier, en se contentant de sommeiller un peu, tout en travaillant ou en mangeant, si bien que souvent je voyais le pain lui tomber de la bouche, tant il était accablé de sommeil.
Ce bouleversement des sens, il est le chemin qui conduit à l'agrandissement du champ mental, c'est-à-dire à la vision. Ces visions, elles sont actuellement le territoire privilégié de certaines recherches menées dans les laboratoires de psychologie. Mais pour nous en tenir à la Terre antique, nous en trouverons une description admirable dans la vie de Siméon le théologien. La chronique raconte... Comme Siméon était en oraison, une nuit, l'esprit purifié uni au premier esprit, il vit une lumière d'en haut jetant tout à coup du haut des cieux ses clartés sur lui, lumière authentique et immense éclairant tout et rendant tout pur comme le jour. Illuminé lui aussi par elle, il lui sembla que la maison tout entière, avec la cellule où il se tenait, s'était évanouie et avait passé en un clin d'œil au néant. Que lui-même se trouvait ravi en l'air et avait oublié entièrement son corps. Dans cet état, il fut alors rempli d'une grande joie et inondé de chaudes larmes. Et ce qu'il y a d'étrange dans ce merveilleux événement, c'est que, non initié encore à de pareilles révélations, dans son étonnement, il criait à haute voix sans se lasser « Seigneur, ayez pitié de moi !» comme il s'en rendit compte une fois revenu à lui, car au moment même il ignorait tout à fait que sa voix parlait ou que sa parole était entendue au dehors. Très tard, enfin, cette lumière s'étant peu à peu retirée, il se revit dans son corps et à l'intérieur de sa cellule, et il trouva son cœur rempli d'une joie ineffable.
Thank you.
La plupart de ceux qui, à l'origine, ont été les premiers à provoquer ce départ, j'allais dire les premiers anachorètes, puisque c'est le sens même du terme, anachorète, ça veut dire celui qui part, celui qui s'en va, n'étaient pas des gens qui avaient lu les Pères de l'Église. C'était pratiquement, à part saint Antoine et à part Pacôme, les deux fondateurs, tous ceux qui les ont suivis ont été des paysans coptes, c'est-à-dire égyptiens, illettrés. Et évidemment, lorsqu'on relit aujourd'hui les textes de cette époque, cette condition rurale des premiers fuyards du désert, des maquisards de Dieu, montre finalement que leur vision avait quelque chose d'un peu naïf. Il y a toute une série de textes à des intervalles de temps assez éloignés qui se groupent autour du thème du mort qui se dessèche indéfiniment, du moine donc mort, qui se dessèche indéfiniment sans jamais disparaître. A priori, on pourrait considérer comme étrange cette perpétuation, car l'image la plus simple que l'on puisse donner d'une mutation profonde au moment de la mort, je dirais que c'est la disparition pure et simple du corps lui-même. Mais il y a là une tradition qui est peut-être d'origine égyptienne. On y retrouve tout de même cette obsession de la perpétuation du cadavre, de la maintenance du cadavre dans l'éternité, qui fait que ces textes sont assez beaux d'abord, sont assez curieux, et je dirais qu'ils ont en eux une... Ils ont créé, quand je les ai découverts, une attirance un peu singulière. Ils se présentent de la façon suivante. Un moine ou un ermite, ou parfois un visiteur, part dans le désert à la rencontre d'un ascète particulièrement réputé. Il veut apprendre auprès de lui le sens et les moyens du salut. Après des jours de marche, il aperçoit une grotte ou un trou dans le sable, ou parfois, s'il y a quatre arbres, une sorte de cabane.
Un jour, en entrant dans une grotte, je trouve un anachorète à genoux, les mains tendues vers le ciel, les cheveux tombant jusqu'à terre. Je me prosterne en lui disant « Prie pour moi, Père ». Il ne répond pas. Alors je m'approche pour l'embrasser, mais en mettant la main sur lui, je vis qu'il était mort et m'en allai. Un peu plus loin, je vis une autre grotte, j'y entre, je vois un moine. Il me dit « As-tu été dans l'autre grotte ?»« Oui. » « Eh bien, le moine est mort depuis 15 ans. Or, il était conservé comme s'il s'était endormi une heure avant. Je partis en glorifiant Dieu.
Ces textes, on les retrouve, selon la tradition du désert, dans des lieux différents, dans des époques différentes, et selon certaines variantes. Je les tiens là à la fois pour un exemple assez frappant d'un thème qui est de nature égyptienne, mais qui se trouve là incorporé dans une vision très différente.
Il y a donc à ce moment-là, on pourrait dire, une nouvelle vision. Je prends un exemple qui n'est pas chrétien, je le prends à Sorowardi. Sorowardi dit ceci. Quand le cœur de l'homme est devenu un miroir, un parfait miroir, qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Est-ce que c'est l'homme qui va voir son propre visage? Non. Il va voir le visage de Dieu? Non. Il ne verra rien du tout, l'homme. Mais Dieu, en regardant le miroir, qui est le cœur de l'homme, il verra sa propre face, il verra son visage. Par conséquent, l'union est totale et la vision devient tout à fait différente. On voit certains pères d'Orient dire, quand un hôte arrivait pour les voir ou pour leur demander une parole de salut, dire « je te salue au Christ qui vient vers moi ».
Nous avons jusqu'à présent regardé cette obsession de la fin du monde qui est fuite hors du monde, dans une perspective divine, celle de l'avènement du royaume promis aux justes par le Créateur. Mais peut-être est-il une autre voie. Car on peut penser que si la création est usée, que si le monde est près de sa fin, c'est que le Créateur lui-même est usé. Dieu est fatigué, agonisant peut-être. Et c'est à l'homme qu'il appartient de prendre le relais de Dieu, c'est-à-dire de poursuivre la création. Car alors, si le monde finit, c'est que l'homme lui-même s'est usé, qu'il s'est en quelque sorte abandonné. Et pour que la vie continue, c'est sur l'homme que la création compte. Et cette perspective se déploie largement dans l'Occident à la fin de l'époque médiévale. Elle nourrit tout un panthéisme populaire qui alimente très largement les mouvements révolutionnaires de nature presque mystique à travers lesquels s'écrit l'histoire depuis 5 ou 6 siècles. C'est ce que manifeste tout particulièrement la parole et l'œuvre de Thomas Münzer dans les premières années du XVIe siècle. Thomas Münzer, ce grand chef anabaptiste, disait « Il faut que l'homme sache, et il ne peut ignorer, que l'homme est en lui, afin de ne point l'imaginer comme à 1000 lieues de lui, mais de bien comprendre que le ciel et la terre sont pleins de Dieu, et que le Père ne cesse d'engendrer en nous le Fils, et qu'à travers les afflictions de notre cœur, le Saint-Esprit resplendit en nous, comme il transfigure le crucifié. » Et l'admirable commentateur de Thomas Münzer, le philosophe marxiste Ernst Bloch, prolonge la vision du chef anabaptiste en nous disant aujourd'hui, à propos de notre époque, comparable à l'époque que vécurent les pères du désert, comparable aussi au grand bouleversement du XVe ou du XVIe siècle, eh bien Ernst Bloch nous dit, il ne peut être question d'une simple vie nouvelle, infusée à une ancienne réalité. L'espace s'offre à tous les débordements. S'ouvre à nous le monde et l'éternité, le nouveau monde de la ferveur et de la percée, de la lumière largement et tumultueusement diffusée à partir de ce qui est en l'homme sa part la plus intime. À présent, il est impossible que n'advienne point le temps du royaume. C'est vers ce temps que rayonne en nous un esprit qui refuse toute démission, qui ignore toute déception. Nous avons suffisamment vécu l'histoire du monde. Nous avons assez connu, nous avons trop, beaucoup trop connu de formes, de cités, d'œuvres, de fantasmagories, d'obstacles nés de la culture. Voici que se dresse librement une autre vie, une vie irrésistible. Voici que faiblit le mince arrière-fond de la scène historique, de la scène politique, de la scène culturelle. Voici que se manifeste l'âme, les profondeurs, par-dessus tous les espaces du ciel où se situaient nos rêves, étoilés depuis le sol jusqu'au zénith, voici que se déroulent les véritables firmaments et que s'élève inlassablement la voix de notre destin jusqu'à ce mystérieux emblème vers lequel se meut, depuis le commencement des temps, la sombre, l'inquiète, la lourde terre.
Il est toujours dit que ce feu purificateur va amener un changement total du cosmos. Par exemple, la Terre sera extrêmement claire et on verra ce qu'il y a dans ses entrailles. Les montagnes vont s'affaisser, tout va s'aplanir pour que l'homme puisse marcher avec plus de facilité. La mer deviendra comme du cristal. Les fleurs seront comme des étoiles. C'est-à-dire qu'il y aura une beauté décuplée, centuplée. On parle par exemple d'un jour qui aura 7 fois... la lumière d'un jour habituel d'été. Et déjà Bernard de Clairvaux avait dit ceci. Ce qu'il faut chercher dans l'existence, c'est d'arriver à être, se situer dans un point où il n'y a pas d'ombre. Et c'est l'individu lumineux qui pourra transformer son groupe, sa communauté, la société. S'il se soumet à une autorité, une obéissance, il est perdu. Nous sommes à une époque, moi j'en suis persuadé, et Nicolas Berdiaev l'a très bien montré, nous n'avons plus à obéir à des lois extérieures.
Cette solitude intérieure, elle requiert une force particulière de l'esprit, une force à laquelle seule, sans doute, l'absolue présence divine donne existence. Mais si Dieu ne répond pas, si le ciel est vide, la solitude ne rencontre qu'elle-même, et elle en meurt ou tragiquement s'en déchire. Et c'est par là que le loup des steppes, qui nous est décrit aujourd'hui par Hermann Hesse, est singulièrement proche de ces pères du désert, de ces hommes ivres de Dieu, mais disons qu'il en est l'envers désespéré. Voici comment Hermann Hesse décrit ce loup des steppes. C'était un homme nocturne. Il craignait le jour qui ne lui était pas propice, ne lui avait jamais apporté rien de bon. Jamais, en aucun matin de sa vie, il ne fut vraiment joyeux. Jamais, à aucune heure avant midi, il ne fit une bonne action, n'eut une bonne pensée capable de donner de la joie aux autres et à lui-même. Ce n'est que dans le courant de l'après-midi qu'il se réchauffait lentement, et seulement vers le soir, en ses bons jours, il s'animait, devenait fécond et parfois ardent et joyeux. Cette particularité se rattachait d'ailleurs à ce besoin profond et passionné de solitude et d'indépendance qu'aucun homme n'éprouva jamais plus que lui. Dans sa jeunesse, quand il était encore pauvre et peinait pour gagner son pain, il préférait crever de faim et porter des vêtements déchirés uniquement pour sauver une parcelle d'indépendance. Jamais il ne se vendit ni pour de l'argent, ni pour du confort, ni aux femmes, ni aux puissants. 100 fois il rejeta et refusa ce qui, aux yeux de tous, était bénéfice et bonheur, pour garder, en revanche, sa liberté. Aucune idée ne lui était plus horrible et plus haïssable que celle de devoir un jour remplir une fonction, suivre un immuable emploi du temps, obéir aux autres. Un bureau, un comptoir, un office lui était exécrable comme la mort. Et ce qui pouvait lui arriver de plus affreux en rêve, c'était d'être prisonnier dans une caserne. Mais cette liberté, durement vécue par le loup des steppes, elle est aussi déchirement, tragique rupture, car il lui arriva ce qui arrive à tous. Ce qu'il cherchait et poursuivait obstinément par un besoin inné de sa nature lui fut donné, mais au-delà de ce qui est bon pour un humain. Ce qui fut d'abord son rêve et son bonheur devint ensuite son amer destin. L'homme puissant périt par la puissance, le cupide par l'argent, l'humble par la servitude, le jouisseur par la volupté. Le loup des steppes, lui, périt par l'indépendance. Il avait atteint son but, personne ne le commandait, il n'avait à se soumettre à personne, il disposait librement de lui. Car tout homme fort atteint véritablement ce qui lui fait chercher un besoin véritable. Lorsqu'il se sentit absolument libre, il s'aperçut que sa liberté était une mort, qu'il était resté seul, que le monde le laissait lugubrement tranquille, qu'il ne se souciait plus des hommes ni de lui-même, qu'il étouffait lentement dans une atmosphère toujours plus rare de vide et d'isolement. La solitude et l'indépendance avaient cessé d'être son désir et son but, pour devenir son sort et sa condamnation. Toute cette solitude explorée par Hermann Hesse, c'est celle qui ne trouve plus en elle-même sa nourriture, son illumination rayonnante, et je n'ai décrite que pour mieux la placer à côté de la solitude magique du désert.
L'ermite, par définition, est seul, mais il est seul d'une façon extrêmement fragile. Je me suis souvent demandé, c'est sensible chez certains de ces ermites, dans certains textes, si, en partant même au fond le plus éloigné des déserts, les plus retirés, il ne contient pas toujours en lui, il n'entraîne pas avec lui, d'une façon invisible, tout un monde qui ne le quitte pas. C'est-à-dire que cet homme seul, malgré son choix d'un désert inaccessible, s'est trouvé à voir comme des sortes d'antennes qui l'ont fait connaître. Et en général, on voit s'affirmer dans l'histoire un processus très simple. Un homme s'en va, il reste parfois 10 ans dans la solitude, et puis par des voies mystérieuses, on apprend à la fois son existence, sa grande sainteté, et il devient un lieu lui-même de pèlerinage. Autrement dit, on est dans une sorte de circulation perpétuelle où la solitude provoque l'afflux de ceux qui veulent retrouver le solitaire, parce que dans sa solitude, il a acquis une personnalité, une irradiation qui le rend désirable à rencontrer, parce qu'on le suppose détenteur d'une parole de salut.
Et cette aventure que nous avons tenté de décrire aujourd'hui, cette aventure de la solitude, du silence, de l'exaspération de tous les pouvoirs intérieurs de l'homme, elle est peut-être aussi l'expression du désir de l'être humain d'atteindre à sa propre limite, c'est-à-dire de découvrir où sont ses frontières, où sont ses barrières, et ses frontières et ses barrières de les faire éclater, c'est-à-dire d'atteindre ainsi à quelque chose qui, quel que soit le regard que Dieu jette sur la créature, soit finalement un signe d'immortalité.
Oui, parce qu'il y a dans cette expérience du désert des limites et en même temps des voies qu'on pourrait qualifier de dangereuses et même, enfin, à certains moments, considérées comme, je dirais, hérétiques, enfin, en employant un adjectif très vague. Pourquoi ? Parce que ce rêve impossible d'être un corps sans corps, d'être non pas un pur esprit, mais d'être un homme, un être qui échappe aux contingences de cet ordre, et dans ce milieu, je dirais dans ce recrutement d'hommes entiers, d'hommes d'une pureté, d'une exigence particulière, d'une résistance à toute épreuve, et en même temps, peut-être d'un certain simplisme d'esprit, ont porté certains d'entre eux à des expériences qui aujourd'hui nous paraissent tout à fait incroyables. Les témoignages sont trop nombreux, se recoupent d'une façon trop évidente pour qu'on puisse mettre en question certaines de ces expériences. Il était relativement courant à cette époque d'entreprendre des jeûnes de 40 jours. Et Macaire, Pacôme, certains autres, Jean d'Égypte notamment, précise que il faut, pour se maintenir en vie et pousser ce carême jusqu'au bout, s'abreuver, bien sûr, c'est-à-dire se désaltérer, 2 coupes d'eau par jour, et sucer des branches de palmier que l'on laisse macérer dans l'eau. Avec ce régime, il est évident que certains de ces hommes ont atteint des états sur lesquels il est difficile de se prononcer, parce qu'il faudrait peut-être à la fois tenter soi-même l'expérience, mais que ça ne suffirait pas. L'homme intérieur ne serait pas le même, et je dirais que cette collaboration que la somme des fidèles, visibles ou invisibles, accorde à l'homme seul du désert, toute cette substance humaine qui l'entoure, toute cette adoration, tout cet encouragement qu'il ressent, même si les êtres humains ne sont pas près de lui, pouvait, je crois, permettre d'arriver à des états particuliers.
Ainsi, Jacques Lacarrière, Marie-Madeleine Davy, cette expérience intérieure apparaît comme une expérience des gouffres, et au fond du gouffre, il y a l'énigme. Et ce dont témoignent ces hommes ivres de Dieu, ces athlètes de l'exil, qui voulurent transformer l'exil en royaume, c'est que dans l'affranchissement du corps et dans la quête extrême de la révélation, ils ont tenté de toucher aux frontières ultimes de l'être. Depuis cette époque, ces frontières, nous les nommons autrement. Mais elles sont toujours là. Elles sollicitent d'être franchies et brisées. Et cette tâche nous prémunit à jamais contre toutes les fins du monde qui nous sont annoncées par les prophètes du malheur. C'est du moins ce que nous dit Henry Miller, dans une espérance jamais tarie, puisque de nouvelles sources sans cesse renaissent.
Nous ne sommes plus au seuil d'un grand conflit humain. Nous sommes en plein dedans. C'est l'âme humaine qui se révolte. L'âme est lasse de ce culte nécrophage de la vie que l'humanité célèbre depuis quelques millénaires. La coupe va déborder. Elle va fertiliser et donner de la vigueur à la terre tout entière, à toute l'humanité. Les forces occultes contenues dans ce vaisseau d'or seront la propriété commune de tous les hommes. Le monde n'approche pas de sa fin comme tant de gens semblent aujourd'hui le craindre. Le règne qui est fini, c'est celui des fétiches, des superstitions, des fanatismes, des formes stériles de culte, des termes injustes du contrat social qui, du miracle de la vie, ont fait une cérémonie funèbre. Nous n'avons rien à perdre que le cadavre de la vie. Les chaînes vont tomber avec la momie qu'elle lie à la terre. L'esclave ne se libère pas en se contentant de rompre les liens qui l'entravent. Dès l'instant où son esprit est libéré, il est absolument libre, et à jamais. Il faut que la putréfaction soit totale avant qu'il puisse y avoir une vie nouvelle. La liberté doit se manifester aux racines avant de pouvoir devenir universelle.
C'était l'autre scène. Aujourd'hui, Ce monde qui va finir par Claude Mettra, avec la participation de Marie-Madeleine Davy et Jacques Lacarrière et le concours de Pascal Mazetti et Philippe Moreau. Collaboration technique Nelly Laya, prise de son Pierre Brault, assistant Jean-Jacques Duchamp, réalisation Claude Roland-Manuel.
C'était un numéro de L'autre scène ou Les vivants et les dieux de Claude Mettra, diffusé pour la première fois le 26 avril 1976.